Alors nous allons essayer de démarrer cet atelier sur la prière en couple. Et d'abord nous vous invitons à nous remettre en présence du Saint-Esprit, en présence du Seigneur, pour que ce ne soit pas d'abord des mots que nous puissions dire et évoquer, et que nos cœurs les uns et les autres soient vraiment ouverts à l'action et à la présence du Seigneur sur ce sujet important et délicat.
Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient.
Marie, épouse de l'Esprit-Saint, nous nous confions à toi pour cet atelier, pour traiter de ce sujet si important. Viens vraiment prier pour nous, viens prier avec nous. Intercède pour nous auprès de ton Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cet atelier sur la prière conjugale, c'est un sujet souvent délicat. Les équipes Notre-Dame, peut-être certains d'entre vous ont été membres de ce mouvement de spiritualité conjugale. Les couples qui s'engagent dans ce mouvement s'engagent à 8 points concrets d'effort, 8 points d'engagement. Et dans ces points d'engagement, il y a la prière de couple. Et bien depuis la naissance du mouvement, de génération en génération, il est dit que cette prière conjugale est le point d'engagement le plus difficile. Tout ce qui va être dialogue, lecture de la parole, prière, communication, etc. Tout ça, c'est participation au mouvement, réunion d'équipe, tout ça, ça a ses difficultés. Mais la prière conjugale est souvent l'aspect le plus difficile des engagements. C'est un vrai problème, et pas simplement dans le mouvement des équipes Notre-Dame. Et pourtant, c'est un élément absolument essentiel pour la vie chrétienne des époux. Alors on va commencer par un propos du pape François qui dit quelque chose d'important, et comme il le dit souvent, il le dit pas avec le dos de la cuillère, il le dit assez cash. Comme le publicain, les époux ont besoin de Dieu. Ils ont donc besoin de la prière. Prier ensemble, prier en famille, c'est très beau. Ça donne beaucoup de force. Ça donne beaucoup de force. Ainsi, prier les uns pour les autres, l'époux pour l'épouse, l'épouse pour l'époux, les parents pour leurs enfants, les enfants pour les parents. La prière renforce la famille. Donc, la prière est pas simple. Si jamais c'est un exercice pieux, la prière n'a aucun intérêt. La prière en couple est une prière qui donne de la force, qui est une source, qui désaltère. Donc on va d'abord essayer d'exprimer qu'est-ce que la prière en couple. La prière en couple est une expérience, avant d'être un exercice spirituel, est une expérience en couple d'un dialogue et d'une communion avec Dieu. Ça peut être la Trinité, ça peut être Jésus, ça peut être le Père, ça peut être l'Esprit-Saint, ça peut être les trois personnes de la Trinité, mais c'est une expérience commune de la communion avec Dieu. C'est une définition qui nous semble une bonne chose, illustrer ce que c'est. C'est quand à un moment nous avons un moment d'intimité en couple, une expérience, je dirais, amoureuse en couple. La prière se veut également une expérience amoureuse avec Jésus, et ce, en couple. Donc c'est une expérience, entre guillemets, à trois. Après, on va pouvoir l'aborder de différents modes, mais globalement, ce qui résume la prière en couple, et peut-être cette définition, d'une expérience de communion à trois. L'époux, l'épouse et Dieu dans sa Trinité ou dans telle ou telle personne. Il est important de souligner que la prière, avant de rentrer dans l'expérience, le rôle de la prière, il est important de souligner le fondement théologique de la prière. Nous l'avons évoqué ce matin, le couple, est la personne est à l'image de Dieu, ce qui nourrit sa prière et justifie sa prière, mais le couple également est à l'image de Dieu et davantage l'image de Dieu dans sa Trinité. Jean-Paul II disait, le couple est à l'image de Dieu particulièrement au niveau de sa communion. Donc l'expérience de la communion trinitaire en couple est importante parce que notre modèle de communion conjugale trouve sa source dans la communion trinitaire. Donc quelque part, pour rentrer davantage dans l'intelligence du don de Dieu dans la vie conjugale, il nous faut ensemble faire l'expérience de la communion d'amour avec notre Créateur et également avec notre Sauveur. Donc, on a vu ce matin, nous sommes créés par Dieu parce qu'il veut que nous goûtions un amour, une intensité qui habite la Trinité. Eh bien, faisons l'expérience ensemble tous les deux de cette communion qui existe au sein de Dieu. De même, nous avons vu que le péché nous a fracturés, nous a éloignés l'un de l'autre, nous conduit à tant de difficultés pour créer la communion auquel on aspire. Mais que Jésus nous sauve, Jésus nous guérit. C'est pour ça que la prière est si importante. Elle n'est pas accessoire. Certains disent, ah oui, mais bon, non, c'est pas notre truc. L'amour, c'est pas notre truc dans un couple. Certains pourraient dire, ah oui, mais la vie conjugale, nous de coucher ensemble, la sexualité, c'est pas notre truc. Vous allez dire, attends, ça va pas, c'est pas un couple, hein. La sexualité fait partie de la vie conjugale. Ou la donner la vie à des enfants, éduquer les enfants, ça fait partie de la vie conjugale, c'est pas accessoire. La communion, l'intensité de communion d'amour entre les époux, c'est pas accessoire. C'est au cœur. Mais on ne sait pas faire. Ou on sait si mal faire. Donc, rentrer en communion avec Dieu et avec les trois personnes divines, eh bien, c'est nous éduquer cette communion conjugale. Donc, le rôle de la prière, c'est nous recentrer sur cette source. Et c'est quelque part, donc, reconnaître qu'on ne sait pas s'aimer. Et donc, on va être éduqué par Dieu. Il va nous apprendre à prier. Prier, c'est également reconnaître que, oui, effectivement, humainement, on s'aime en tant qu'époux et épouse. Mais Jésus a dit, même les païens aiment ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils aiment. Ça veut dire que même les païens s'aiment, mais quelque part ils vivent une relation d'amour qui n'est pas celle que je veux vous enseigner. Et donc vous avez à apprendre de moi la manière dont vous aimez, dont vous allez vous aimer. Et effectivement, s'aimer dans un couple, simplement quand il y a le youpala qui bondit de joie, j'ai pas besoin de Jésus, hein. Quand notre cœur bondit d'amour, ça va. Quand le matin, on se réveille avec l'autre, on l'a un peu là, on n'arrive pas à aimer. Hein. Ou quand vraiment on est saturé des réactions de l'autre, ou qu'à un moment on supporte plus ceci ou cela chez lui, quand ça commence à rentrer vraiment dans le dur, c'est là où vraiment nous avons besoin du Seigneur, pour nous aimer, pour nous aider à nous aimer au-delà de simplement du youpala et du palpitant dans le cœur. C'est quand ça peut arriver au bout de 3 jours, ça peut arriver au bout de 3 mois, ça peut arriver au bout de 3 ans, ça peut arriver au bout de 30 ans, mais quand vraiment on n'en peut plus vraiment de l'autre, où c'est vraiment difficile, c'est là où vraiment nous avons à puiser dans l'amour de Jésus et dans l'amour du Seigneur, vraiment de comment aimer l'autre. Et c'est là où on commence vraiment à rentrer dans le dur, et c'est là où on voit qu'on a vraiment besoin que Dieu nous donne sa grâce pour aimer l'autre, pour aller goûter de cette intensité-là. Comme on évoquait ce matin avec Cana, c'est quand effectivement le vin ne coule plus à flot, quand le vin commence à avoir quelques goûts un peu aigres, ou quelques goûts de vinaigre, c'est là où effectivement ça commence à être intéressant. Et c'est là où on a vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Rappelez-vous également, pour conclure cette introduction, combien nous avons effectivement du mal à nous aimer, combien Jésus, en rappelant aux apôtres et aux pharisiens quel est le dessein de l'amour conjugal, quelle est la source de l'amour, en rappelant la Genèse, on est bien conscient humainement que c'est pas possible. Et c'est bien le cas d'énormément de couples aujourd'hui. Pourquoi vous croyez qu'il y a tellement de gens qui ne veulent pas se marier? C'est pas qu'ils ne croient pas au mariage. C'est qu'ils savent qu'à un moment, ça va être trop douloureux de se quitter. Parce qu'ils savent qu'à un moment, c'est irréalisable. Et ils ont raison et ils sont lucides. C'est pour ça qu'il y a tant de couples qui se séparent. C'est pour ça qu'il y a tant de couples croyants ou cathos qui se séparent. Et que même parmi les couples cathos qui ne se séparent pas, c'est la croix tous les jours. Et finalement, c'est une cohabitation triste pendant des années. Et on n'est pas fait pour ça. On est fait, comme ça a été dit ce matin, comme c'est dit à la Genèse. Adam, il s'est pas dit à côté d'Ève, « Oh, elle est jolie, elle est bien roulée, ma femme à cocotte, on va être bien ensemble un petit bout de temps. » Adam, il a dit, « C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Il a exulté. Mais ça, c'est bien beau, mais c'est beau comme dans les rêves. C'est pas beau comme dans la réalité. Or, Jésus a dit, « Votre programme conjugal, c'est la Genèse. » C'est pour ça que je vous ai créé. Le péché a fracassé. Mais c'est ça le programme que j'ai prévu pour vous. Et c'est pour ça que la prière est si importante. La prière est vraiment d'ouvrir le puits, d'ouvrir la source, goûter la source pour que cette promesse d'exultation d'Adam et Ève, Cette promesse de la vie trinitaire, elle devienne réalité. Qu'on puisse puiser dans le cœur même de Dieu pour que ce bonheur, il vienne. Je ne me suis pas marié avec Maud il y a 31 ans pour cohabiter avec elle et que je m'emmerde pendant 50 ans de ma vie. Et c'est pareil pour elle. Je ne veux pas simplement exulter pendant 3 ans ou pendant 10 ans. Nous voulons que Cana advienne dans notre vie et que le meilleur vin et que le plus beau jour de notre vie, c'est pas le jour du mariage, hein. Sinon c'est hyper déprimant. Hein. Le plus beau jour, c'est devant. Alors vous faites comme vous voulez. Je sais pas où vous en êtes de votre vie conjugale. Si vous êtes là ensemble depuis 2 ans ou 50 ans, mais nous, le meilleur jour, il est devant. Et celui qui prend le pari d'aller prier, c'est qui dit « Je veux me coltiner, je veux aller puiser auprès de Dieu parce que le meilleur jour, je veux qu'il soit devant. Je veux les puiser à cette source. » Et c'est pour cela la prière. C'est hyper égoïste. C'est hyper égoïste. Je veux puiser cette source. Sauf que là où ce n'est plus égoïste, c'est parce que j'en fais l'expérience. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on crame un week-end de 4 jours à Avignon où il faisait beau, alors qu'ici il fait 20 degrés de moins, 20 degrés de moins, et qu'on était en train de bouffer les cerises dans le jardin, alors que vous, les cerises, c'est dans un mois. Et on vient là parce que c'est super important que vous le sachiez. Parce qu'il y en a tellement qui ne le savent pas, il faut se le rappeler, il faut se dire, mais goûtez à ceci, c'est le meilleur vin.
On a parlé ce matin de Genèse 3, la catastrophe du péché. Il y a un midrash qui m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu les commentaires des rabbins sur la parole de Dieu, sur la Genèse. Ils posent la question, pourquoi est-ce que Ève a été tentée par le serpent et qu'elle a pris le fruit? Réponse, parce qu'Adam n'était pas là. Que faisait Adam? Après l'amour, soit il dormait, soit il était parti chasser sur ses terres. Donc, conclusion des commentaires juifs et plus tard repris par les pères de l'Église. Donc, quand Adam n'est pas à côté de Ève, ça risque de mal se passer. Autrement dit, la tentation dans un couple survient quand il y a division. Quand quelque part on s'est éloigné l'un de l'autre. Quand on n'est plus attentif l'un à l'autre. Et la prière conjugale est le premier rempart contre la division. Si on veut faire communion, nous sommes appelés à prier ensemble. Et si nous ne prions pas ensemble, ne nous étonnons pas que les combats dans notre communion surviennent. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un couple vient nous voir parce qu'ils ont des difficultés, la première question qu'on leur pose, c'est « Est-ce que vous priez ensemble ?» C'est la base, c'est le béaba. Même si on est maladroit et même si on va énumérer maintenant un certain nombre d'obstacles, la prière conjugale est le rempart contre la division, les tentations, l'éloignement mutuel. Et un couple qui ne prie pas ensemble, c'est un danger. Il se met en danger. Et attention, la prière familiale n'est pas une prière conjugale. Avec les enfants, c'est autre chose. La prière conjugale a vraiment un rôle spécifique qui est justement de faire la communion en Dieu, devant Dieu, en vérité.
Pour avancer sur cette question et pour souligner pourquoi il y a autant de combats, on va y arriver. Mais on va commencer par un détour. Ce que n'est pas la prière conjugale. La prière conjugale n'est pas la somme ou l'addition ou la cohabitation de deux prières individuelles. La prière individuelle est super importante. Mais prier en couple, ce n'est pas, bon, alors écoute, tu pries, je prie. On se retrouve dans un quart d'heure, hein. Ça peut être une introduction. Mais ce n'est pas ça. Deuxième chose, prier ensemble, c'est pas aussi méditer un texte ensemble. C'est pas non plus faire un partage de la parole. C'est super important de partager la parole. Nous, au moment où on a commencé pour nos 20 ans de mariage, on a dit, allez, on va prendre un évangile et on va partager ensemble. Ça a fait 3 bouquins. Bon. Donc, c'est bien, c'est bien, ça nourrit, c'est, etc. Mais c'est pas la prière. Ce n'est pas, enfin ça c'est parfois subtil, parfois la prière, on voit à un moment des coups, l'expérience de couple, mais c'est aussi à un moment été notre expérience, l'écueil. On fait une prière spontanée ensemble, et finalement pendant la prière, on fait passer subtilement des messages à l'autre. Mon vieux, je te le mets sous le tapis, tu l'as pas vu venir, mais je te le dis avec un trait très sirupeux et spirituel, et tu vas voir, tu vas le prendre là où tu voulais pas l'entendre. Ah mais... Le péché, c'est se glisser avec des airs de béni oui-oui, c'est impressionnant. Donc effectivement, la prière est une épreuve, est un combat. Et il faut bien le prendre, le combat, là où il est. C'est un vrai combat spirituel. On a commencé par ce propos en rapportant la difficulté des équipiers Notre-Dame. Et pourquoi? Si jamais c'est un combat, comme disait le curé d'Ars, c'est qu'il y en a un qui n'aime pas, qui est bien conscient de l'enjeu. Le curé d'Ars disait, dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens, là où il faut s'inquiéter, c'est quand le grappin, le malin n'est pas là, quand il se manifeste pas. Par contre, quand il se manifeste, c'est qu'il se passe des choses importantes. Et donc, ne soyez pas étonnés que la prière conjugale soit un combat. Parce que le grappin sait parfaitement que c'est un axe majeur de la source de votre amour et de votre grâce et de votre sacrement. Et que si vous ne vous nourrissez pas à la prière conjugale, vous ne nourrissez pas votre sacrement. Et donc vous asséchez la vie même de votre sacrement. Donc, je vais vous empêcher par X manières de prier ensemble, comme ça votre sacrement n'est pas nourri. Et donc, comme par l'absurde, ou comme par le plus grand combat, le Seigneur nous démontre à chacun que la prière est un canal majeur de la grâce pour le couple, d'où la source des combats. Donc ça rejoint la question du combat spirituel. Et donc, je vais donc me l'affronter de face. Et donc je comprends que je ne vais pas simplement aller prier avec mon conjoint, parce que youpala, les petits oiseaux, Jésus est gentil, Marie est avec moi, et j'ai tout le cœur guéri d'aller prier. Je vais aller prier, nous allons aller prier, pas simplement qu'on est parfaitement en paix et dans le désir intérieur de le faire. Je vais y aller d'autant plus parce qu'il y a aussi un combat, parce que je saisis l'enjeu. D'autre part, Jésus, vis-à-vis de ses apôtres, enfin, leur souligne qu'ils ne savent pas prier. Et les apôtres se tournent vers Jésus. Apprends-nous à prier. Donc c'est normal qu'on ne sache pas spontanément prier. Qu'on ait des difficultés, qu'on ait des combats, qu'on ne sache pas prier, qu'on se plante. Vous savez, Jésus, à un moment, les apôtres priaient sur un malade. Guéris-le. Ils n'y arrivaient pas. Jésus arrive. Il prend une des plus grandes engueulades. Il engueule les apôtres, mais de manière impressionnante. Souvent, on parle de Jésus doux et humble de cœur. Oui, c'est vrai, il est doux et humble de cœur. Mais à des moments, je veux dire, il met des roustes monumentales. Et là, il dit, combien de temps aurais-je à vous supporter, etc., etc. C'est pas comme ça qu'il faut prier, c'est comme ça. Par le jeûne et la prière qu'on chasse les démons. Et il chasse le démon. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a à rentrer dans l'intelligence de la prière. Comment prier? Comment prier pour mon conjoint? Comment prier ensemble? Comment prier pour nos enfants? Et c'est vrai que souvent, on ne nous a pas appris. Il faut rentrer dans cette intelligence de la prière. Et puis, autre chose importante, la pudeur spirituelle a remplacé la pudeur sexuelle. Quand vous parlez aujourd'hui avec beaucoup de couples, alors il n'y a pas de problème. Hein. On peut parler de cul, on peut parler de Kamasutra, on peut parler de ceci, on peut parler de cela, il n'y a pas de problème. Hein. Mais parler de Dieu, parler de l'intimité spirituelle, ah non, c'est mon jardin secret. Mais ton jardin secret, tu crois pas que quand tu te mets tout nu dans ton lit avec ton mari et ta femme, c'est pas un jardin secret? Quand tu t'es marié, qu'est-ce que tu as dit devant monsieur le curé? T'as dit, je me donne à toi. J'ai pas dit, je te donne mon corps et puis le reste, je le garde. Je me donne à toi. Je ne m'appartiens plus. C'est même pas une cohabitation. C'est pas simplement une alliance. Je me donne à toi. Je me donne donc corps, cœur, esprit, âme. Ça veut dire que c'est une seule chair. C'est toute la méditation de Jean-Paul II sur l'une seule chair. C'est aussi une seule âme. Donc je dois faire une seule âme avec toi. Et donc c'est la prière. Mais on nous a pas appris cela. Et donc, il y a une pudeur que nous devons vaincre. Donc c'est pour ça que la prière est également un engagement de la volonté. Quand on s'est engagé l'un avec l'autre au mariage, je me donne à toi. Ça n'a pas été simplement j'ai mon palpitant et j'ai envie de passer un bon moment avec toi. C'est j'ai posé un acte de volonté, j'ai décidé. J'ai donc aussi décidé de prier avec toi.
Donc la prière conjugale, c'est ensemble devant Dieu, prier d'abord en présence de Jésus. Vous savez cette parole, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, eh bien nous sommes deux, ça tombe bien. La plus petite communauté chrétienne, la petite église domestique que nous sommes, c'est déjà nous deux. Et donc quand nous prions, nous savons que nous sommes là, en présence de Jésus et qu'il est au milieu d'eux. Il vient nous bénir, il vient nous sanctifier, mais il vient aussi nous guérir, nous consoler, rendre, je dirais, notre vie plus heureuse, plus joyeuse, moins lourde. avoir conscience de cette présence de Jésus qui veut venir au cœur même de notre vie spirituelle, de notre communion conjugale. Et donc, la première chose que je voudrais vous dire en parlant de la prière, après tout ce qu'a dit Alex comme introduction, c'est cette puissance dont on ne prend pas conscience de la prière des époux l'un pour l'autre. Nous prions souvent en couple pour nos enfants, pour tel ou tel problème. Mais en fait, le Seigneur nous a confié l'autre et nous sommes unis dans un sacrement. Donc, comme je dis souvent à Alex, trop tard, on sera deux à rentrer au royaume ou deux à ne pas y rentrer, mais de toute façon, c'est indissociable. On ne peut pas faire le grand écart. Donc, ça veut dire que nous sommes liés dans notre sanctification mutuelle. D'ailleurs, on s'y emploie l'un et l'autre. Il n'y a pas de doute sur ce sujet. Et donc, ça veut dire que le Seigneur nous a donné une grâce particulière pour intercéder pour notre conjoint. Et une puissance particulière à notre prière pour notre conjoint. Donc, nous expérimentons depuis plusieurs années la prière de l'un sur l'autre. Je vous assure que c'est absolument bouleversant. Quand l'un prie sur l'autre, et que après ça, on inverse, les grâces qu'on a reçues par cette expérience de la prière mutuelle explicite. Parce que souvent, on a une prière pour l'autre implicite. Eh bien, en fait, intercéder pour l'autre, en sa présence, en imposant les mains ou autre, en demandant un texte au Seigneur, en laissant parler son cœur, ça permet vraiment de mesurer à quel point le Seigneur nous a donné, de par le sacrement de mariage, un ministère spécifique pour notre conjoint. Et ensuite, nous allons pouvoir l'exercer pour nos enfants ou pour les œuvres, la fécondité que nous avons, même si ce ne sont pas nos enfants de la chair, où nous allons pouvoir prier ensemble en agissant aussi avec autorité. Quand nous prions ensemble, nous mettons en œuvre le commandement de Jésus. Au départ, il nous a dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, aimez-vous, aimez Dieu comme le seul Dieu de toute votre force, votre âme, etc. Et le deuxième commandement qui lui est similaire, aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, mon premier prochain, c'est mon conjoint. Et en fait, on se rend compte que dans la vie quotidienne conjugale, on se donne beaucoup d'efforts. On s'investit beaucoup pour aimer le voisin acariâtre, pour aimer nos enfants pas toujours agréables, pour être agréable avec notre patron, nos collègues de travail. Mais faire un effort pour aimer mon conjoint, là, non, c'est trop. Et c'est souvent d'ailleurs une des raisons des difficultés conjugales. C'est qu'en fait, on n'a pas compris que notre première énergie de conversion, elle s'adresse à notre conjoint. Je dois d'abord apprendre à aimer mon conjoint pour ensuite aimer les autres. Et lui, il est capable de me rappeler que je ne suis pas encore tout à fait convertie, qu'il y a de la marge. Donc vivre cette conversion conjugale, c'est aussi demander dans la prière l'intercession de son conjoint pour les points de conversion que j'ai à vivre. Donc je ne vais pas dans la prière demander au Seigneur de convertir mon conjoint, parce que ce serait tellement plus facile et tellement mieux pour moi. Je vais demander au Seigneur qu'il me convertisse et je vais solliciter la prière de mon conjoint pour ce que j'ai à vivre, et réciproquement bien sûr. Et donc en fait, la prière va devenir le lieu où je présente mes fragilités, mes faiblesses, mes blessures à l'autre, pas pour qu'il appuie dessus, mais pour que nous soyons unis ensemble dans le combat, ensemble dans l'intercession pour obtenir la grâce de Dieu. Et je sais qu'on a vécu des moments de grâce très forts tous les deux quand, par exemple, j'ai pu dire, voilà, je viens de réaliser telle blessure que j'ai reçue et qui agit aujourd'hui sur mon comportement. Au lieu de me le reprocher, peux-tu prier pour moi et m'aider à vaincre et à guérir de cette blessure? Eh bien, les choses ont été complètement transformées. Et ça, c'était le fruit de la prière conjugale. Parce que la prière conjugale, c'est le lieu où on peut rentrer en soi-même pour confier à l'autre ce qui nous pèse, ce qui nous est douloureux, ce qui est lieu de conversion pour nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière conjugale est le lieu aussi où l'on s'arme pour le combat spirituel. Le pape François n'a pas beaucoup parlé de la prière conjugale depuis le début, mais dans les deux citations qu'on a trouvées, il y en a une qui traite justement de ce combat et de ces difficultés. Tout le monde connaît les difficultés et les épreuves de la vie conjugale. L'important est de maintenir vif le lien avec Dieu, qui est à la base de l'union matrimoniale. Pour cela, il faut que la famille prie, il faut que le couple prie. Et Jésus, d'ailleurs ça a été cité ce matin, Jésus a dit à Simon-Pierre, « J'ai vu Satan qui t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que tu ne perdes pas la foi. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Eh bien, quand nous prions l'un pour l'autre, pour que notre foi ne défaille pas, ensuite, nous pouvons affermir nos frères que sont nos enfants, le petit troupeau que Dieu nous a confié, puis éventuellement un autre troupeau si le Seigneur élargit l'espace de notre tente. Donc il faut s'armer pour le combat spirituel et s'armer ensemble pour prendre autorité. Autre point important, dans le sacrement de mariage, le Seigneur nous a donné autorité pour notre famille, pour nos enfants, en particulier le père de famille. Quand la maman peut lui dire, attention, tel et tel enfant, on sent qu'il y a un combat, il y a quelque chose qui ne va pas. Le papa peut prendre autorité, vraiment, au nom de son sacrement de mariage, au nom de la grâce de père qu'il a reçue pour diriger sa petite église domestique. Pour commander au vent et à la mer, comme faisait Jésus, même s'il nous faut traverser des tempêtes. Le Seigneur nous a donné plusieurs fois de voir à quel point la prière des parents faite avec autorité était puissante.
Il faut peut-être souligner cette question. On a souligné l'importance de la prière pour réaliser notre dessein conjugal. Et Maud souligne un point important, c'est l'importance de la prière pour puiser, pour recevoir les grâces par rapport à notre ministère parental. Il est dit, il est redit, à la suite des pères de l'Église, mais c'est le Concile Vatican II qui l'a réactualisé, que la famille est une église domestique. Souvent, on dit, ah ouais, bon, l'église domestique, et alors, ça change quoi? Jean-Paul II disait, toute la théologie de l'Église s'applique à la famille, toute la théologie de la famille s'applique à l'Église. Et vous savez qu'à un moment, il y a un élément qui est connu dans l'Église, pour la définition de l'Église, c'est que c'est un seul corps, présidé par le pape, pour l'Église universelle, présidé par un évêque, pour une église locale, présidé par un curé, pour une paroisse. C'est lui la tête du corps. Et que le corps, c'est un corps uni, avec différents membres, et l'ensemble des membres est au service du corps. Et un membre est malade, et tout le corps est malade. Un membre est en bonne santé et tout le corps est en bonne santé. Donc l'interdépendance. Et bien donc il en est de la même réalité si la famille est une église, une petite église, ça veut dire que c'est la même, comme on dit en théologie, c'est la même économie spirituelle. Ça veut dire que en nous consacrant dans le sacrement de mariage, en nous unissant, nous sommes une seule chair. Et donc l'église que nous fondons et une seule chair de par le sacrement de mariage. Et donc les enfants font partie de ce une seule chair, font partie de notre petite église domestique. Et donc Jean-Paul II, dans cette fameuse lettre aux familles que nous citions ce matin, écrite en 94, Jean-Paul II parle du ministère des époux. Et donc nous avons un ministère de sanctification, de conduite pastorale de nos enfants. Et c'est pour ça que quand Jésus instaure Pierre comme chef de l'Église, il nous instaure chef en tant que père et mère, comme responsable de la petite Église domestique. Et il nous fait paître le troupeau qui est le nôtre, de nos enfants et aussi de nos petits-enfants quand viendront les petits-enfants. Donc nous avons charge d'âme. Nous avons charge d'âme. D'où l'importance de conduire nos enfants à la foi et à les évangéliser. Ce qui n'est pas simplement de les recruter pour l'Église, on s'en fout. C'est de les conduire à la foi parce que là est la libération, la liberté, la joie. C'est pour cela, c'est pour un bénéfice de vie. C'est pour cela que nous avons charge pastorale. Et donc c'est donc pour cela que nous avons appuisé dans la prière toutes les grâces que Dieu veut nous donner au jour le jour pour qu'il y ait grande communion, mais pour que nous recevions également l'Esprit Saint pour que nous soyons assistés dans notre ministère pastoral pour nos enfants. C'est dans la prière que nous recevons également le discernement pour les grandes décisions de notre vie. Cette maison, faut que je l'achète, faut que je l'achète pas. Cet appartement, faut que je le prenne ou pas. Ce poste de travail, faut que je le prenne ou pas. Cette décision, est-ce qu'il faut qu'on aille passer les fêtes avec papa et avec les grands-parents? Oui ou non? Cette personne en difficulté, faut qu'on l'accueille ou pas? Etc, etc. Une des grandes difficultés des parents, des époux, c'est le discernement. Discernement. Des choses très très pratiques. On est confronté à plein de décisions à prendre. Associons Dieu, associons le Christ pour les décisions, afin qu'il nous éclaire. Mais mon Dieu, excusez-nous, mais le nombre de conneries qu'on n'a pas faites, parce que Jésus nous a assistés. Parce qu'on l'a consulté. On l'a associé à nos décisions. Combien l'Esprit Saint nous a guidés. Vous savez, l'Esprit Saint, on le voit jamais. Mais c'est comme le vent, on le voit jamais, mais on voit ses traces. Je vois pas qu'il y a du vent, mais je vois qu'il est en train de souffler dans les arbres. Parce que je vois les branches qui sont agitées. Et il en va de même de l'Esprit Saint. On ne le voit jamais, mais on voit ses traces dans nos cœurs. C'est ce que Saint Paul appelle les fruits de l'Esprit. La paix, la joie, la sérénité. Et là où il n'est pas, le trouble, l'écueil, l'aigreur, la tristesse. Donc l'Esprit Saint nous guide dans nos cœurs, dans nos vies, dans le discernement d'époux, d'épouses et de parents. Donc toute cette importance. Mais mon Dieu, c'est impressionnant comme l'Esprit Saint peut nous guider et nous éviter tellement de conneries. Et c'est tellement vrai pour nos enfants. Du moment que nos enfants ont accueilli, nos 5 enfants ont accueilli Jésus dans leur vie, oh, il s'est passé vraiment un grand seuil dans notre vie de parents. Hein. Parce qu'à un moment, tu peux renvoyer ton enfant au discernement de l'Esprit Saint. Je dis, écoute, cette décision de ton orientation scolaire, de tes copains, de cette soirée auquel tu dois aller, etc., etc., prie le Seigneur, et il va te dire quelle liberté ils ont acquis. Ah, c'est pas des grenouilles de bénitier, hein. Mais parce que ils ont accueilli le Christ dans leur vie et qu'ils vivent de lui, alors à ce moment-là, le discernement est tellement plus facile. Donc, je sais qu'il y a tellement de conjoints qui ont beaucoup de mal à prier ensemble. Et il y a tellement, peut-être à un moment de... Souvent les femmes d'ailleurs qui disent « Mais moi j'aimerais tellement que mon mari puisse prier, mais il veut pas. » Il trouve ça c'est complètement idiot. On entend tellement cela. Mais essayez de faire comprendre à votre conjoint, ou essayez-vous de comprendre si vous n'y arrivez pas du tout. Essayez de comprendre combien la prière est un accélérateur de vie et d'amour et de vie conjugale et de vie familiale. Soyez égoïste pour votre vie conjugale et pour votre vie familiale. Essayez de dire, mais moi je veux les trésors, je veux des trésors dans ma vie personnelle. Je veux pas faire des exercices pieux, je m'en fous. Ça tombe bien nous aussi. La prière est un autoroute de mise en œuvre des dons de Dieu dans la vie conjugale, dans la vie familiale. Faites ce que vous voulez. Mais nous, je crois en tout cas qu'on a trouvé un bon filon. Chacun son trip, chacun son truc, comme on dit aujourd'hui. Ah, c'est pas mon truc. Oh, bah, c'est pas ton truc. Mais moi, j'ai un super truc, hein.
Alors, on va donner quelques petites pistes pour s'aider à prier ensemble, qui sont concrètes, mais maintenant, bien sûr, chacun trouvera sa propre façon de prier. L'essentiel, c'est de décider ensemble d'un rythme commun. Par exemple, nous, on a décidé de ne jamais se coucher, sauf si on est séparés géographiquement, sans au moins dire un Notre Père ensemble, ou un Je vous salue Marie, après, on fait ce qu'on veut. Prendre au moins un temps de prière un peu long par semaine, au moins. Mais après, chacun trouve son rythme. Il vaut mieux faire un petit pas et le tenir que de définir un grand pas et de n'y jamais y arriver. Et puis ensuite, il y a beaucoup de conjoints qui disent « Moi, j'aime le grégorien, lui, il chante la louange. Elle, elle veut du silence et lui, il veut que parler. » Enfin bon, après, en général, c'est l'inverse d'ailleurs, mais bon. On s'en fout du mode de prière. Ce qui compte, c'est d'être devant le Seigneur et de pouvoir au moins partager de façon spontanée pendant la prière à un moment. Alors pour certains, on peut prendre un office un peu classique. Pour d'autres, commencer par un temps de louange. Peu importe, mais il faut se définir un rituel. Parce que si on n'a pas un rituel conjugal, bon, on commence par ça, ensuite on fait ça, ensuite on se donne un temps spontané, puis on clôture comme ça. Si on n'a pas des repères, il y en a toujours un qui va être ronchonchon en disant « mais cette fois-ci, on n'a pas fait ça, on aurait dû, machin », et ça va devenir un lieu de conflit au lieu d'être un lieu où on peut, ensemble, se réjouir devant le Seigneur. Donc, se mettre d'accord sur un petit rituel, c'est le deuxième point. Trouver aussi, éventuellement, un lieu propice qui vous convient, qui soit un peu votre intimité. Bon, ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un oratoire, c'est bien. On a même vu chez quelqu'un qui n'avait pas la place d'avoir un oratoire, ils avaient une armoire chapelle, ils ouvraient les portes et hop, ils avaient un oratoire. Et après, ils refermaient, c'était très bien leur truc. Et s'appuyer l'un sur l'autre pour s'exhorter à être fidèle à ce temps de prière commun. C'est bien que ce soit à tour de rôle, mais parfois c'est toujours le même qui appelle l'autre, c'est pas grave. Il faut persévérer, ça n'a pas d'importance. Par contre, si on l'a décidé ensemble, essayez d'éviter de traîner les pieds pour y aller. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est tellement important, tellement fondateur pour notre couple, que voilà, vous râlez pas pour vous laver les dents tous les jours, c'est rentré dans les habitudes, et ben on va dire voilà, vous râlez pas pour prier avec votre conjoint tous les jours, ça fait partie des habitudes.
Mais à la fois, rassurez-vous, c'est normal qu'il y ait des combats. C'est normal que vous n'en ayez pas le goût. Même si vous pouvez reconnaître toutes les bénédictions qu'il y a pu y avoir dans votre vie, etc., etc., même pour cela, c'est aussi un combat. Donc, c'est normal qu'il faille un peu taper dedans, quoi. Hein. Faut y aller, quoi. C'est normal c'est pour ça qu'il faut s'exhorter. Vraiment que c'est de l'ordre de la décision. C'est pas simplement du ressenti, youpala, et chacha, quoi. Hein. C'est aussi de l'ordre de la décision.
La prière conjugale va aussi de pair avec notre célébration, la célébration de notre amour qui nous est spécifique, notre liturgie propre qui est la sexualité. Parce que c'est difficile de s'unir dans nos corps si on n'est pas uni dans nos cœurs. Donc parfois, elle la précède, parfois, elle la suit, parfois, elle s'en nourrit. C'est à chacun d'y trouver son mode. Mais rappelons-nous cette grande prière de Toby et Sarah, qui est si belle. La prière conjugale est aussi un outil précieux pour convertir notre sexualité. Et parfois le lieu qui nous est donné pour pouvoir en parler sereinement. Se dire l'un à l'autre les grâces que l'on reçoit de ces moments ensemble. Se dire aussi peut-être, se demander pardon pour les blessures qu'on a pu se provoquer à l'autre, même si c'est involontaire. Mais l'une nourrit l'autre et les deux sont intimement liés. Et la qualité de la relation sexuelle est souvent liée à la qualité de notre partage dans la prière. C'est une constatation qu'on a faite, c'est pas scientifique, mais de fait, il y a un lien très fort.
Je voudrais vraiment insister sur ce point-là. C'est peut-être un peu surprenant pour vous d'évoquer dans un atelier sur la prière en couple, la question de la sexualité et de quasiment finir par ça. C'est pas un hasard, parce que c'est la prière qui nous est la plus spécifique. Quand Jean-Paul II utilise le terme que le langage de la sexualité des époux appartient au langage liturgique. Liturgique. Ça veut dire que la sexualité conjugale est la liturgie propre des époux. On a un sacré chemin de conversion par rapport à ça. Et d'ailleurs, dans les deux sens. Je m'explique. Souvent dans un couple, plutôt l'homme dans l'un, plutôt la femme dans l'autre, l'homme a à convertir le fait qu'il prend, qu'il est très centré sur le plaisir, et que donc il doit convertir sa pulsion sexuelle pour accueillir, se donner et non pas prendre. Et donc il a vraiment un travail de chasteté pour convertir sa pulsion, son énergie, toujours prêt à démarrer au quart de tour. Et ça, c'est tout un travail de conversion. Et donc, c'est un travail de conversion pour faire de sa sexualité une liturgie. Mais également pour l'autre, souvent la femme, il y a aussi tout un travail.
La femme, elle a plus comme combat d'apprendre à se donner pleinement, avec générosité. Et si elle se donne pas, son mari n'est pas nourri. Et donc, il va toujours demander, ne jamais être rassasié. Et comme disait un de nos amis, il avait constaté qu'en convertissant sa sexualité, sa femme se donnait de plus en plus et avait de moins en moins mal à la tête, avait de moins en moins des soucis avec les enfants, et qu'elle vivait ce rendez-vous comme un lieu où vraiment leur amour était célébré. Donc, bien sûr, nous avons l'un et l'autre à convertir notre sexualité, soit dans le manque de don, de générosité dans notre don, soit dans la rudeur ou la passion un peu trop prenante et qui ne respecte pas l'autre. Mais plus on fait ce chemin de conversion, plus on vit cette émotion extraordinaire de cette union des âmes, de cette étreinte des âmes à travers l'étreinte de nos corps. Et quand on touche ce moment-là, c'est ce que disait Benoît XVI, on vit alors non pas le plaisir d'un instant, mais un avant-goût de la béatitude vers laquelle tend tout notre être.
Benoît XVI, ça veut dire, je vous rappelle, c'est plutôt le pape, plutôt un peu style 19e, avec ses chats et Mozart. Hein. Donc c'est vrai qu'on n'attend pas tellement dans la bouche de Benoît XVI des propos qui sont aussi précis dans le domaine de la sexualité. Donc, ça illustre combien, vraiment, c'est sa première encyclique, cette citation, c'est sa première encyclique sur l'amour. Combien l'éros dans le couple est vraiment un chemin de conversion, de sanctification et d'action de grâce. Rendez gloire à Dieu au travers de votre sexualité vécu de manière chaste, mais souvent on a chaste, ça veut dire du bout des doigts là. Non, non. Vous pouvez vraiment rendre gloire à Dieu en vous donnant profondément, intensément. Et c'est une prière à Dieu. Et c'est une action de grâce à Dieu que les consacrés dans le célibat ne peuvent pas connaître. C'est pas leur vocation. Comme à un moment, nous ne pouvons pas. Il y a des choses qu'on ne pourra pas goûter de la grâce donnée aux consacrés dans le célibat. Mais nous avons reçu vraiment une grâce spécifique. Et donc faites de votre intimité, de votre sexualité, vraiment une vraie liturgie. Nous avons donné comme ça un enseignement à des couples chrétiens, etc. Et dans cette assemblée, il y avait notamment un couple vraiment de vrais retraités. Hein. Et donc pour eux, ils avaient réglé ça depuis quelques années en disant « Bon, ouais, c'est bon, hein, c'est réglé ça. C'est terminé pour nous. C'est terminé pour nous. » Ils ont été tellement touchés que le soir même, ils ont fait l'amour, ils n'avaient pas fait l'amour depuis des mois, sinon des années. Et ils sont venus nous témoigner après. Ils disent, écoutez, on est mariés depuis, je crois, 45 ans. On n'a jamais fait l'amour comme ça. Jamais. Et combien de couples nous ont témoigné qu'en découvrant le sens théologique, spirituel de la sexualité, ils ont goûté une intensité comme ils ne l'ont jamais goûté. C'est un don que nous fait Dieu. Et Dieu se révèle à nous également dans notre intimité et dans notre une seule chair. Nous avons à goûter en tant que couple cette intensité de la prière, de la présence de Dieu, de notre intimité conjugale. Et si le monde le savait, si le monde le savait, ils feraient tous la queue devant les confessionnaux et devant les portes des églises. Les gens croient qu'ils vont goûter une intensité de leur sexualité, surtout en quittant l'église. Parce qu'ils vont être libres de tout. Ils ont strictement rien compris. Rien. C'est parce que tu te libères de tes passions, parce que tu avances sur un chemin de conversion, que tu peux goûter ce moment d'intensité, de communion, que tu peux goûter Cana. Cana, nous avons vu ce matin, le décrescendo du monde. Qu'est-ce que nous propose le monde ? Il nous propose le Kama Sutra et toutes ses positions. Et alors, quand tu les as fait au bout de 3 mois, de 6 mois, de 10 ans, qu'est-ce que tu fais après ? Alors que le chemin de conversion te fait goûter une communion et une intensité qui ne peut aller que crescendo. C'est la béatitude dont parlait Maud en citant Benoît XVI. Et c'est cette communion que tout homme, toute femme, croyant ou incroyant, aspire à vivre. Donc rendons grâce à Dieu pour tous ses dons. Célébrons-le. Célébrons le mystère. Saint Paul, en Éphésiens 5, parle du grand mystère qui habite le mariage. Et la sexualité conjugale en est sa célébration caractéristique. Célébrons-le, bénissons-le.
Je voulais terminer par une petite histoire qu'un couple de nos amis a expérimenté pour vous montrer qu'on est vraiment un seul corps aussi, spirituellement et physiquement. C'est une de nos amies qui a souffert de problèmes de dos pendant 25 ans. Et son mari a été faire une session de guérison parce qu'il a découvert des choses lourdes dans sa famille. Et à 600 kilomètres de là, sans qu'elle le sache, un mercredi à 4h, elle s'est trouvée libérée de son problème de dos et elle n'avait plus mal. C'était exactement le moment où son mari a reçu une prière de guérison. Et on a mesuré à travers cet exemple à quel point nous pouvons nous porter mutuellement dans un couple. Beaucoup plus qu'on ne pense. Et que parfois, même physiquement, on porte le poids de l'autre. La prière conjugale peut être ce lieu où justement cette communion qui fait de nous un seul corps s'exprime, se vit, se nourrit. Bien sûr, elle n'exclut pas la prière individuelle qui doit demeurer. Mais elle est le lieu où va se vivre cette communion spirituelle que nous avons scellée dans le sacrement de mariage et qui est quand même le but de notre vie, puisque Dieu nous a unis pour que nous fassions un. Donc notre voie de sainteté, c'est le un. Faire un, tout en restant nous-mêmes. Donc être un, c'est d'abord être un spirituellement, un dans nos corps, Alex l'a déjà dit, mais ça, cela passera. Et j'espère bien qu'au royaume, on arrivera vraiment à être un, même si nous serons comme des anges, dit la parole.
On peut peut-être terminer par un moment de prière. Seigneur Jésus, nous te remettons tout ce que nous avons partagé pendant cette heure autour de la prière conjugale. Seigneur Jésus, nous voulons te confier tous les conjoints ici présents, les couples ici présents, et te confier particulièrement les difficultés et les épreuves que nous vivons dans cette communion spirituelle en couple. Seigneur Jésus, nous te confions vraiment chacun, afin que chacun puisse goûter au travers de ce week-end un temps vraiment de prière en couple, que chacun puisse vraiment partager sur ses difficultés, peut-être sur cet enseignement, afin d'avancer concrètement dans cette communion spirituelle. Viens, Esprit Saint.
Seigneur, je te demande une grâce tout particulière pour chacun de nos couples. Donne-nous le goût de la prière ensemble. Et pour ceux qui sont seuls, soutiens-les, Seigneur, tant que leur conjoint n'est pas à leur côté pour prier. Te demandons, Seigneur, de nous donner vraiment la joie de la prière commune et qu'elle nourrisse toute notre vie, qu'elle nourrisse nos enfants indirectement, qu'elle porte du fruit pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bonheur.
Et toi, Marie, qui a vécu avec Joseph sans doute tellement de moments aussi intenses au niveau spirituel, de prières communes, nous confions à toi, nous confions chacune des personnes présentes ici, des époux, des épouses, particulièrement ceux qui ont des difficultés pour cette prière. Viens prier pour chacun, assister chacun. Je vous salue, Marie,
pleine de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Nous avons ouvert il y a quelques années un site qui s'appelle l'Évangile pour le couple. Vous le googlisez, vous le trouvez facilement, évangile pour le couple, tout attaché, .fr, sur lequel vous avez 80 émissions de 20 minutes sur différents thèmes. Et vous en avez 4 ou 5 sur la question de la prière conjugale. Voilà. Vous pouvez écouter directement, vous pouvez télécharger en MP3, donc c'est très facile, c'est gratuit. évangile pour le couple.fr